J'ai retenu pour ce culte un bref passage du livre des Actes des Apôtres au chapitre 20, les versets 7 à 12. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas, et quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore, jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur ma route. Et nous allons chanter le cantique numéro 190, Roi des anges, les strophes 1, 2, 3 et 4, le cantique numéro 190. Je vous invite à vous lever dans le recueil Louanges et prières. Grâce te soit rendue pour ta parole, ô Dieu, notre Père, où nous recueillons la promesse de ce que tu veux nous donner toi-même. Au milieu de nos vies agitées, troublées, connaissant parfois quelques joies, mais si souvent de grandes épreuves du corps, de l'esprit ou de l'âme, tourmentées par tant de choses diverses dans le tumulte du monde qui nous entoure, Nous te bénissons de nous permettre de nous arrêter un instant pour écouter ce que tu as à nous dire. Que la méditation de ta parole mette véritablement dans nos cœurs une lumière nouvelle qui éclaire notre chemin pendant les jours qui viennent et qui nous rende capables d'être dans le monde de meilleurs annonciateurs de ton amour par notre service, notre témoignage et notre propre amour. Ce qui compte d'abord, c'est la parole. C'est ce qu'a déclaré un jour l'écrivain italien Eri De Luca, un homme assurément pétri de culture biblique. Oui, c'est vrai. D'abord, la parole, avant toute chose. Sans elle, rien n'est possible dans la vie. C'est d'ailleurs vrai de la création. Dieu dit... et le monde advient. C'est vrai du salut. L'évangile commence avec la voix de celui qui crie dans le désert en annonçant que Dieu s'approche, qu'il est temps de changer de regard et de faire confiance à ce qui vient. C'est encore vrai de toutes les réalités humaines. À l'origine de toute relation, il y a cette évidence de la parole. Comme le rappelle Rousseau dans son essai sur l'origine des langues, il écrit que ce n'est ni la faim ni la soif, mais l'amour, la haine, la pitié, la colère qui ont arraché aux hommes les premières voix. Et c'est encore la parole qui est au commencement de l'Église. On pourrait même avancer, mais cette proposition est extrêmement classique, que l'Église se définit par l'annonce de la parole de Dieu à travers la prédication et les sacrements. L'Église surgit, elle prend naissance chaque fois que des hommes et des femmes se réunissent physiquement pour se mettre à l'écoute de la parole de Dieu en un lieu et en un temps donné. C'est ce que nous faisons ce matin, comme tous les dimanches, en cet oratoire du Louvre. Et nous en avons aussi un exemple éclatant dans le récit des Actes des Apôtres que j'ai fait le choix de vous lire. Cette nuit de Troas, tellement riche en péripéties. Car c'est bien de la célébration de la parole de Dieu qu'il est question dans ce récit. Nous avons là une description du culte chrétien en son surgissement originel. La scène se situe à l'issue du sabbat, pendant le soir qui inaugure le premier jour de la semaine. Car bien évidemment, pour cette communauté fraîchement issue du judaïsme, le jour du Seigneur commence la veille au soir, la nuit venue, dès qu'on peut distinguer 3 étoiles dans le ciel. Il s'agit bien d'une veillée, d'une vigile, dans l'attente de celui qui est, qui était et qui vient. Oui, les chrétiens, c'est d'ailleurs le nom qu'on leur a donné à Antioche quelques années auparavant, les chrétiens répondent à une convocation et Paul leur adresse la parole dans le cadre d'un entretien long, très long. Et la fraction du pain vient accomplir cette réunion dans l'action de grâce en commémorant le dernier repas de Jésus, ce geste étant compris comme le signe d'une alliance avec Dieu, une alliance nouvelle et éternelle. Où ça ? Ce culte se passe dans une maison privée dont le propriétaire a mis la chambre haute à disposition des fidèles du Christ. Est-il lui-même un frère, un sympathisant ou un simple bailleur ? Nous n'en savons rien. C'est là, dans un espace banal et fonctionnel, que le message est délivré. C'est là que commence l'Église, c'est l'acte originel, fondateur, qui s'actualise ce matin selon un autre horaire, en un tout autre lieu, comme si nous devenions les contemporains de la scène relatée par l'auteur du livre des Actes. Oh, je rappelle que le mot grec « ecclésia » qui a donné « église » est un mot qui vient du vocabulaire profane, qui veut dire « réunion ». Meeting. D'ailleurs, chez les darbistes que j'ai un peu fréquentés, naguère, on ne parle pas du culte, on parle encore de la réunion. Chaque fois que des chrétiens se réunissent à l'écoute de la parole de Dieu, l'Église commence. Oui, l'Église, c'est classique de le dire, elle est toujours d'abord un événement de grâce. Alors, il faut bien mesurer que cette conception de l'Église, comprise d'abord comme un événement, l'événement d'une parole proclamée et reçue, nous conduit à relativiser d'autres conceptions de l'Église. L'Église n'est pas d'abord une communauté, un groupe, un peuple. Parce que bien sûr, si l'on pense l'Église de la sorte, le risque c'est d'être finalement obsédé par la question de l'appartenance. Qui fait partie du groupe et qui n'en fait pas partie ? Quels sont les critères d'appartenance à la communauté ? D'ailleurs, paradoxalement, les groupes qui n'arrêtent pas de parler de fraternité, de communion, de solidarité, sont en fait des machines à exclure. Forcément parce que tout groupe a des frontières et des limites. Et alors l'Église, lorsqu'elle se conçoit d'abord comme une communauté, elle fonctionne au mieux comme un club, sous le signe de l'entre-soi. Et on sait bien qu'un club, il a son ticket d'entrée. Il faut souvent montrer patte blanche, il faut des parrainages. Un club, il a ses rituels d'intégration et d'initiation. Il a ses coutumes, un droit non écrit. Il faut connaître les codes. Tant mieux si ça marche. Au pire, dans cette conception, on aura un panier de crabes où les gens sont souvent dans le conflit, comme dans ces familles, on a envie de dire ces tribus, où l'on s'entre-déchire délicieusement, faute de pouvoir jamais se séparer. Eh bien, penser et vivre l'Église comme un événement peut nous libérer de cette obsession de la communauté. Parce qu'en cet instant précis, notre assemblée, notre Ecclésia, elle est sans doute extraordinairement variée, et c'est tant mieux. J'imagine que parmi vous, il y a des mécréants et des mystiques, des gens prêts à confesser leur foi, et d'autres qui doutent et qui s'interrogent, qu'il y a certains d'entre vous qui sont rongés par l'inquiétude, et d'autres qui sont dans une paix qui dépasse toute pensée et toute intelligence. Oui, notre assemblée, elle est extraordinairement composite. On y trouve certainement du bon grain et de l'ivraie, des professants et des inconvertis. Mais ce qui fait notre communion, c'est que nous sommes tous réunis à l'écoute d'une parole. Ce n'est pas à nous qu'il incombe de faire le tri pour savoir qui est digne de faire partie de la communauté, à Dieu seul de s'y retrouver, puisque c'est lui qui vient à nous pour nous parler à travers la prédication et les sacrements. Ceci étant, cela ne signifie pas non plus que la communauté n'ait aucune importance. Si l'Église n'est pas d'abord une communauté, il ne s'ensuit pas qu'il faille tenir pour négligeable ce qui est communautaire dans l'Église. Car bien évidemment, la réunion chrétienne, elle est quand même appelée un peu à se prolonger. Il est normal et il est souhaitable que ceux qui se retrouvent à l'occasion du culte tissent des liens entre eux. L'Église a vocation à durer, elle n'est pas faite pour l'éminente dignité du provisoire. Et on sait bien qu'on n'est pas chrétien tout seul. Ceux qui croient en Christ forment un seul corps. Et dans la foi, ils sont appelés, oui, c'est vrai, à devenir frères et sœurs. Ils sont appelés à se regrouper, à se connaître et à s'aimer, et à vivre autant que faire se peut, ensemble, dans le partage des peines, des joies, parfois même des biens. Dans le passage du livre des Actes que je vous ai lu, il y a un verbe. On nous dit que Paul s'est entretenu avec les disciples, homilesas. Voilà. Un mot qui a donné homélie, qui ne veut pas dire sermon, mais qui veut dire conversation familière. Ça veut dire que l'Église n'est pas que proclamation, elle n'est pas qu'enseignement. Et Dieu sait que Paul a consacré du temps à cet enseignement avec sa compétence de scribe. L'Église, elle est aussi homélie, elle est conversation, mise en commun d'une parole humaine. L'Église, c'est une communauté de paroles, une communauté langagière, comme disait Paul Ricoeur. Le risque, c'est que ce langage, il risque toujours de sombrer dans le conformisme, le convenu, le convenable, de n'être plus que de la communication, dans la complaisance, dans le verbiage, ce qui est tout autre chose que le verbe. Il faudrait alors, pour reprendre l'expression de Mallarmé, donner un sens plus pur aux mots de la tribu. Et telle est, je crois, la fonction de la proclamation de l'Évangile, qui a pour but de rompre ce qu'il peut y avoir de ronronnant dans la conversation ecclésiale. Si l'Église n'est pas d'abord une communauté, j'aimerais aussi insister sur le fait qu'elle n'est pas non plus d'abord une institution. Puisqu'elle est avant toute chose un événement, elle ne peut pas se définir non plus par ses structures et ses ministères. Bien sûr, l'Église, elle en a besoin pour vivre, pour s'organiser. Mais tout cela répond à des besoins pratiques. Le Nouveau Testament, d'ailleurs, n'impose aucunement une forme précise de vie d'Église à maintenir, à reproduire ou à restaurer. Paul est un évangéliste, il va d'église en église, il est de passage à Troas avant de repartir pour Milet, où il a donné rendez-vous aux anciens de l'église d'Éphèse. En organisant les premières communautés, ce qu'on appelle les apôtres ont tenu compte des circonstances et du milieu. Ils n'ont pas voulu établir des structures valables partout et toujours. Finalement, l'organisation ecclésiale, elle dépend en partie du contexte. Et on voit bien que dans le Nouveau Testament, il y a une pluralité de modèles possibles. Le système presbytérien, le régime d'assemblée générale, l'épiscopat monarchique. Et selon les lieux et les temps, on peut adopter finalement des formules extrêmement différentes. Ce qui veut dire qu'il ne faut jamais absolutiser les institutions qui ne relèvent pas du droit divin. Mais là encore, si l'Église n'est pas d'abord une institution, il ne s'ensuit pas pour autant qu'il faille tenir pour rien ce qui est de l'ordre de l'institution, bien évidemment. L'oubli, le mépris, voire la violation des règles institutionnelles est toujours source de problèmes et de crises dans l'Église, comme dans toute organisation sociale. Alors me direz-vous, chers amis, à quoi sert l'institution ? Au-delà des questions de logistique et d'intendance et de règlement intérieur d'une association. Dans certaines églises, l'institution, elle a pour vocation de gérer l'économie du sacré. Elle a une fonction médiatrice. Elle rend présent le divin et le communique à tous. Elle fait le lien, elle fait le pont avec Dieu, elle établit le contact avec lui. Eh bien, c'est avec une telle conception de l'institution que les réformateurs ont voulu rompre. Pour certains, l'institution, elle a pour tâche de créer et de développer une communauté. L'Église aurait alors une fonction de rassemblement, comme je le signalais tout à l'heure, formée de frères et de sœurs appelés à se connaître et à s'aimer. Et l'institution, alors, elle joue son rôle quand elle offre un cadre où le fidèle trouve sa place, participe à la vie commune et exerce une responsabilité. Il y a ainsi, il faut bien le reconnaître, le rêve d'une vie, d'une église experte en cocooning, une église qui serait une sorte de phalanstère spirituel. Pour d'autres encore, l'institution doit favoriser l'émergence d'un instrument d'action présent au monde, pour le convertir, par exemple. Alors l'Église, elle se pense comme une institution missionnaire, investie dans l'évangélisation, portée par un rêve de croissance. Il faut gagner des âmes. Pour d'autres encore, l'Église doit être un instrument de transformation de la société, et l'institution se donne alors comme projet de lutter contre les injustices, de dénoncer l'intolérable, de participer à tous les combats pour un monde plus humain, comme dans une anticipation du royaume de Dieu. L'Église, c'est alors le levain dans la pâte. Mais, chers amis, si j'affirme que l'Église est d'abord un événement, celui de la parole de Dieu, alors la mission première de l'institution, c'est d'offrir à tous, quel que soit leur appartenance ou leur non-appartenance, c'est d'offrir à tous un temps et de bonnes conditions pour l'écoute et la réception de la parole. L'institution, elle atteint son but, elle remplit sa finalité quand elle se met au service de l'événement de la parole. À cet égard, le rôle de l'Église est important, c'est vrai. Mais dans ce domaine, l'Église est invitée aussi à la modestie. Elle ne doit pas s'accorder en tant qu'institution une valeur démesurée, car il est bien évident que l'institution ecclésiale ne peut pas provoquer l'événement de la parole. Seul l'Esprit de Dieu fait que la prédication devient porteuse de la parole de Dieu. Karl Barth disait avec raison que la première chose que devrait faire un prédicateur en descendant de chair, c'est de prononcer une prière de repentance. Il faut bien reconnaître, en effet, que la prédication, notre prédication, n'a pas toujours l'effet escompté. Il n'est pas rare qu'elle endorme le peuple de Dieu ou l'incite à prier pour que le prédicateur en finisse au plus vite. Je crois même que l'ennui lié à la prédication a été un défi pour le peuple de Dieu depuis le début. Peut-être bien que Tic s'est endormi pendant le culte, terrassé par la fatigue et l'ennui. Et pourtant, ce jour-là, le prédicateur, c'était Paul. Paul qu'à Athènes, on avait d'ailleurs surnommé le radoteur, le perroquet. Oui, frères et sœurs, lequel d'entre nous ne s'est pas morfondu à l'écoute de tel ou tel prêcheur? N'est pas exclu que Paul lui-même ait parlé d'un ton si monotone ou débité de telles banalités qu'en l'écoutant, on ait pu littéralement mourir d'ennui. De plus, Dieu peut parfaitement faire entendre sa parole en dehors de l'Église. L'institution, elle n'est pas propriétaire de l'événement qui l'a fait vivre. Elle n'en a pas l'exclusivité. L'événement, il peut se produire, Dieu merci, ailleurs qu'entre nos murs. Comme le ressuscité, la parole de Dieu, elle est passe-muraille. Elle ne se laisse pas estampiller ou labelliser. L'Église, elle correspond au moment où se produit l'événement de la rencontre avec la parole de Dieu. Si cet instant, ce kairos, ce bon moment, fonde et nourrit la vie chrétienne, il ne l'englobe pas ni ne la résume. Ce moment s'accompagne d'autres moments, ceux de la militance, de l'engagement, du témoignage, du service, qui se situent souvent ailleurs que dans l'Église et en dehors d'elle. Et je pense en disant cela à ceux qu'écrivait ce cher Raphaël Picon, vous trouverez cela dans son livre « Des églises pour l'essentiel ». Raphaël Picon écrivait « Les églises sont nécessaires, mais pour enseigner ce qui les rend d'emblée relatives et secondes, à savoir l'Évangile qui les fonde et les anime. Des églises, il faut s'en affranchir dès qu'elles se prennent pour l'Évangile et prennent notre place. Oui, nous voulons des églises qu'elles ne s'engagent pas à notre place, mais qu'elles nous recentrent sur l'essentiel, un Évangile qui nous convoque, qui nous appelle et qui nous donne la parole. Bref, l'Église n'a pas son sens et son but en elle-même, elle doit prêcher l'Évangile, elle n'a pas à se prêcher elle-même. Dit autrement, l'institution ecclésiastique ne constitue pas un magistère, l'Église n'a rien à commander, elle est un ministère, c'est-à-dire un service. En tant qu'institution, l'Église est au service de la parole, cette parole dont Paul Ricoeur écrivait qu'elle est l'institution qui fonde toutes les institutions. Alors, frères et sœurs, ce dont l'Église a besoin, c'est aussi de serviteurs de la parole. Et peu importe que ceux-ci soient reconnus, institués ou ordonnés, serviteurs de la parole, cette expression, elle apparaît dès les premières lignes de l'Évangile de Luc. Et oui, parce que, bien sûr, Dieu n'a pas d'autre parole que les nôtres, accomplie par Jésus, attestée par les apôtres. Le ministère de la parole est désormais assumé par des êtres de chair et de sang. Oui, par la voix d'hommes et de femmes, la parole de Dieu avance dans notre monde. Et Paul en est un exemple éclatant. Et c'est à la lumière de cette théologie de la parole que le récit du miracle, de la réanimation de Tyche, prend tout son sens. Ce que Luc veut nous dire dans ce petit récit, c'est que rien ne peut verrouiller cette parole porteuse de vie. Minuit, c'est souvent l'heure de la puissance des ténèbres. Mais dans les actes, c'est l'heure de la délivrance, l'heure à laquelle celui qui, dans la foi, n'est encore qu'un enfant, sort enfin de son sommeil et renaît à la vie, à la vraie vie. C'est l'heure à laquelle Paul descend et le prend dans ses bras, comme une mère prend son petit pour le ramener vers le haut, vers la lumière. Minuit, c'est l'heure à laquelle le serviteur de Dieu fait passer Eutyche de la mort à la vie, des ténèbres de l'extérieur à la clarté de la chambre emplie de luminaire. C'est l'heure à laquelle Paul le fait passer de l'endormissement à la pleine conscience. Ah oui, qu'il porte bien son nom, Eutyché, la bonne fortune, le chanceux, le vénard. Oui, Luc célèbre ainsi le pouvoir créateur et recréateur d'une parole qui, venue de l'éternité, prend aujourd'hui chair en des hommes et en des femmes qui, il faut bien le reconnaître, n'ont rien d'extraordinaire. Oui, chers amis, le christianisme n'est pas admirable parce que ses adeptes seraient des héros triomphants, mais parce qu'ils sont porteurs d'une parole admirable, porteuse d'un sens et d'une puissance qui ont en Dieu leur source originelle. Oui, dans cette belle veillée pascale de Troas, Paul partage avec ses frères et ses sœurs une parole dont il n'est pas le maître, mais l'humble serviteur. Son absence prochaine n'est d'ailleurs pas escamotée, et alors il partit au petit jour, est-il précisé. Oui, demain, l'apôtre ne sera plus avec eux pour les exhorter et poursuivre l'entretien, mais qu'importe, après tout, d'autres seront là pour prendre la relève. Paul, lui, il ne fait que passer, à l'instar de son maître, Jésus, le serviteur de la parole par excellence. Mais Paul, comme Jésus, est comme une force qui va. Alors, heureux les serviteurs de la parole, sans attache, sans feu ni lieu, mais qui, comme il est écrit dans la finale du livre des Actes, sont libres de proclamer le royaume et d'enseigner ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ sans entrave et avec toute assurance. Oui, frères et sœurs, sans entrave et avec toute assurance. Amen.